Tout à l'heure, on parlait notamment à partir de ce récit de voyage fait par notre ami, qui avait tout un travail de construction politique des communautés qui pouvait passer par la sensibilité partagée, et la sensibilité partagée permise par les psychotropes. Est-ce qu'il y a un moment où certaines drogues se mettraient à devenir le principal élément de construction de ces communautés ?
Mais on peut finir par prendre les drogues de façon individuelle, disons. Mais l'approche première et la continuité tient à un rapport collectif, à partager des sensibilités, des émotions, les portes de la perception dont parlait Aldous Huxley, c'est exactement ça. Portes de la perception qu'on ouvre ensemble et qu'on vit ensemble. Et ça, c'est le fondamental qui, à la limite, il faut l'avoir vécu pour se rendre compte. Et ces phénomènes des groupes étaient valables pour la plupart des drogues, pour dire de toutes, des cannabis, aux champignons et autres substances psychédéliques, y compris l'héroïne dans les années 70. Ce qui s'est produit en Italie dans les années 80, et ça sera la même chose en France, avec des différences, c'est la répression du mouvement politique et social. Suite à cette répression, ayant vu les copains qui sont en prison, qui meurent, qui en exil, les tissus sociopolitiques se dissoudrent sous les coups de la répression, et bien ça a poussé pas mal de gens à prendre la voie des rêves exclusivement via les drogues, et en particulier l'héroïne. En Italie comme en France, il y a eu une mortalité importante par la overdose, sans parler des épidémies de sida, hépatite C, etc., provoquées par une mauvaise utilisation des produits. Et les manques des seringues à l'époque, c'était interdit. La politique gouvernementale qui a provoqué des morts, il ne faut pas l'oublier. Cette dérive dans des rêves individuels, disons, via l'héroïne, c'est la conséquence d'une cassure des liens collectifs. Jusqu'à quand il y a des liens collectifs, on tient mieux son coup, aussi individuellement.
Bah, tout à fait, il y a les expérimentations collectives des prises de drogue, pas que des hallucinogènes, voilà, pendant les festivals pop.
Et tous ces festivals, c'était comme Woodstock, c'était comme Monterrey, en Californie, en 77, c'était ce qu'on appelait les fils de flair, la génération des fils de flair de Baba Cool, qui s'est retrouvée. Évidemment, dans tous ces festivals, il y avait des prises de drogue, il y avait des rêves qui s'est passé, il y avait des dizaines de gens ou des centaines de gens qui se dénudaient. Ces rêves nous ont portés. Et c'était les ancêtres des technivals d'aujourd'hui. Il y avait une musique différente, plutôt du rock, où il y avait des drogues aussi différentes. C'était plutôt de la marijuana, du LSD, bien sûr. Dans les manifs, il y avait une partie des manifestants qui chantaient marijuana, mescaline, hashish, LSD, comme slogan.
Juste ça.
Juste ça. Qui étaient des drogues plus soft, disons, à l'époque, comprenez. Et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amphétamines dans le techno, mais ça va avec la musique aussi. Chaque musique a sa drogue, on pourrait dire.
Et à propos, est-ce que tu pourrais nous conseiller de la musique psychédélique italienne qui se faisait dans ces années-là ?
Il y a une partie du concert à Parco Lambro, ils ont fait une expérimentation collective en faisant passer une file parmi les milliers de gens qu'il y avait. Et quand quelqu'un y touchait un fil, le système faisait soit qu'il y ait un passage de son, il se produisait jusqu'à les enceintes. Enfin, c'était une musique collective produite par tout le monde, oui, collaborative, puisque quand quelqu'un touchait cette file, il se produisait un son. Et du coup, il venait une mélodie assez bizarre.
On va écouter un peu de musique justement et on va se retrouver juste après pour la suite de cette émission de L'Art ou Sky sur la drogue et le psychédélisme.
Thank you. grammar's hard to defend. White memories for a lovely girl free. We're in love with the smile, I think. Watch the sun, we lose with my memory. I kind of gave it only for the passion. But it justified my spirit and desires. Rectify moments, my serious nurture. Take element, face of my slowest time. Flying replies, much faster, vacuums with words. Nearly sage with the heartbeat of passion. Skip forth with the base, with time going under. Accepting fake, concern, noble origin. Offenses punch that boat with the wing of the sparrow. The inverse, the obverse, the converse, the reverse. Some shot winning meet the edge of the sparrow. These simple reckonings, through numerous dimensions, feelings, fat juice, devoured by rats. There's one way to skin a cat of boards and a rat, and see a full hit if you're forthrightly stated.
On vient d'écouter une musique du Velvet Underground, issue de leur deuxième album. Et on va continuer cette émission de La Rouscaille sur FPP, consacrée aux drogues et au psychédélisme. Alors on parlait juste avant la pause avec Alessandro Stella, notamment, des années 70 en Italie et de la place des expérimentations collectives en lien avec les drogues. Et une dimension apparemment qui était importante dans ces années-là, c'était aussi toute la contre-information qui pouvait exister sur les drogues. On a vu des magazines, il y avait une contre-culture et un savoir diffus sur les drogues, aussi des classements alternatifs sur leur dangerosité supposée. Bon, on va peut-être revenir un petit peu sur cette histoire de contre-information, mais tout d'abord, on va écouter, à titre de contre-exemple, un point de vue assez médical sur les drogues, en l'occurrence sur le LSD et la naissance du LSD. Donc on écoute des médecins qui parlent entre eux.
Le LSD-25, mis au point par un laboratoire pharmaceutique de Bâle, est une substance tirée de l'ergot de seigle que les scientifiques appellent neurodysleptique et le commun des mortels, drogue hallucinogène. En médecine, le produit est utilisé d'une part à titre expérimental et d'autre part par les psychiatres pour supprimer les inhibitions chez leurs patients. Le drame de cette drogue, dont la livraison au laboratoire a été suspendue, est que sa formule est simple. Un étudiant en chimie peut la fabriquer et elle revient très bon marché. Selon la grande presse, après l'héroïne, la morphine, la cocaïne ou la marijuana, le LSD-25 apparaît comme un fléau social aux États-Unis et menace, paraît-il, de débarquer en Europe. Que n'évoquent pas les articles de journaux, le LSD-25 permet d'accéder au paradis artificiel, il donne du talent, le LSD-25 rend fou, mène au suicide ou pousse au crime. Quelle est la part du vrai et du faux dans cette gigantesque campagne de presse? Nous avons choisi de vous éclairer par l'exemple. Trois volontaires, une femme peintre, un guitariste et un écrivain, ont accepté de prendre du LSD-25 sous contrôle médical devant nos caméras.
Docteur, ça n'est pas la première fois que vous réalisez ce genre d'expérience, n'est-ce pas ?
Non, ce n'est pas la première fois et M. Etienne sera un des derniers sujets d'expérience vu que le LSD va être retiré du commerce, comme vous savez. J'ai fait l'expérience aussi sur moi-même, j'ai pu tirer quelques règles, disons.
Vous allez donc lui donner la drogue, le LSD-25 ?
Oui, c'est là-dedans.
L'effet va se faire sentir dans combien de temps ?
Ça peut varier entre 10 minutes, un quart d'heure et une heure de temps.
Et il va durer combien de temps ?
Ça va durer dans les 4-5 heures en moyenne, bien que des sujets aient présenté des phases allant jusqu'à 10 heures et même 24 heures.
D'ailleurs, ça n'a aucun goût.
C'est comme si c'était de l'eau. Hein,
ah oui, effectivement.
Bon, docteur, vous avez mis un peu de LSD dans de l'eau, là. Quelle dose à peu près ?
50 mg. La dose,
ça ne dit pas grand-chose, c'est beaucoup,
pour un sujet,
c'est normal.
Pour un sujet normal, ouais.
Ça fait 40 minutes maintenant, madame, que vous avez pris la drogue. Comment vous sentez-vous ?
Ben, je me sens pas trop mal, mais je suis dans un état de fébrilité. J'ai l'impression que le sol commence à bouger.
Et physiquement, comment vous sentez ?
Je me sens morcelée.
Morcelée ?
Oui.
Essayez de nous expliquer un peu.
Un peu comme une mosaïque. Mm-hmm. Peut-être du fait que je sens cette espèce de trépidation, comme un marteau piqueur.
Dans tout le corps ou bien dans certaines parties ?
Non, dans la mâchoire
dans
surtout.
La mâchoire,
et puis,
oui.
Ça résonne un peu dans la tête.
Mm-hmm. Et les limites de votre corps, oui.
Un peu flou. Pas les mains, mais plus bas, ça devient un peu flou.
Tout à l'heure, vous nous avez dit, on est comme dans un aquarium.
Ah oui, oui, je me sentais comme dans un aquarium, c'est vrai. Voltiger d'algue en algue, enfin voltiger, non, nager d'algue en algue. Alors j'ai l'impression que vous étiez aussi dans cet état-là.
Mais vous auriez aimé qu'on soit dans cet état-là, non ?
C'est-à-dire, du moment que Non, je m'excuse. Si je vous vois comme des algues, ça me suffit, vous comprenez ? Vous êtes parti, ou c'est si bien qu'une chaise, que comme un cheminée, n'importe quoi, qu'une bougie, d'un ensemble qui est malgré tout homogène, il n'y a pas de rupture.
Sentiment de froid, de chaud ?
J'ai chaud, c'est sûr, j'ai chaud. Et puis dans les genoux, il y a certains... J'ai envie de rire.
Qu'est-ce que vous en déduisez, docteur ?
Là, c'est l'effet du LSD.
Oui.
Oui, je suis très... J'ai envie de courir, ou bien de marcher partout, ou bien de frapper quelque chose.
Et vous vous sentez très, très en forme, agressif un petit peu ?
Oui, oui.
Agressif ?
Presque agressif, oui. J'aime provoquer les gens, mais normalement, dans la société, il ne faut pas. Mais à ce moment, j'ai envie.
Vous avez le sentiment qu'il y a combien de temps que vous avez pris le LSD ?
J'ai l'impression qu'il y a 10 minutes. Pas plus.
Ça fait une heure.
Ça fait une heure
ça
déjà
fait une heure de temps, maintenant, oui.
C'est pas possible. Oui. C'est extraordinaire, ça. Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de 10 minutes.
Il faudrait que vous regardiez l'aiguille des secondes.
Elles vont très vite, oui.
Ça va très vite.
Très, très vite, oui.
Une seconde passe très vite pour vous. Une minute, c'est-à-dire.
Oui.
Les distances.
Les distances, elles sont
très, très loin.
Je vois très loin, elles sont... Tout est très net, dans le fond. C'est-à-dire que l'avant... Tout ce qui est à l'avant-scène, là, devant, ne m'intéresse pas. Je vois tous les détails du mur, dans le fond. Donc oui, je vois très très loin.
Avec les petits détails.
Avec les petits détails, tous les petits détails, les contours, tout. C'est comme une dentelle.
Puis je ne peux pas contrôler la voix quand je chante. Ça fait un effort. Et non, normalement, je fais des nuances dans la chanson. J'ai pas envie de faire des nuances. Rien.
C'est à quoi ?
Non, rien de spécial. C'est une sensation. Ce n'est pas une idée fixée.
Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire.
Non.
Hein? À cause de quelque chose de spécial ou bien. Il y a un motif.
Je crois que c'est nerveux.
Un rire nerveux, oui, avec des larmes. Hein?
Oh oui, alors.
Vous avez des fous rires dans la ville, de façon générale ?
Ah oui, ça m'arrive, mais comme ça, alors c'est rare.
Pas à ce point. Qu'est-ce que vous pensez du tableau?
Oh, il est très mauvais. Vous voyez quelque chose, vous?
À vrai dire, je me sens d'un état très bizarre. Non, maintenant, c'est stupide. Pourtant... Non, c'est peut-être la crainte de la caméra qui me fait éclater de rire comme ça. Enfin, peu importe. Non, mais un effet extrêmement curieux, à la fois des impressions de chaud et de froid. Quelquefois, tout est teuffé autour de moi, n'est-ce pas ?
Mike, vous êtes fatigué ?
J'ai envie de dormir, et puis j'ai envie de reculer dedans, moi. J'ai envie de penser. Enfin, j'ai vu des petites couleurs ici qui étaient très bien avec la lumière, puis c'était bleu, et gris et rouge.
Le sentiment d'être un peu hors du temps et hors de... Enfin, pas hors de l'espace, mais dans... J'ai l'impression d'être sur le pont d'un bateau, vous voyez, avec des câbles, avec des... Enfin, oui, mais là, c'est l'impression que je pouvais avoir aussi à l'état normal, mais enfin, quand même, plus accentué.
Pourquoi vous faites toujours la critique de ce que vous dites ? Je crois que c'est justement caractéristique du LSD, n'est-ce pas ?
Oui, toujours fait d'avoir la critique qui est en sorte le rempart dans la défense qui nous empêche de sombrer dans la psychose. S'il n'y avait pas cette critique, ça irait trop loin. Il y aurait un délire qui commencerait véritablement. Alors qu'il n'y a pas de véritable expérience délirante. Il y a des troubles, des sensations et des perceptions, avec toujours la critique pour pouvoir se raccrocher à la réalité.
Docteur, est-ce que les réactions auxquelles nous venons d'assister sont caractéristiques des effets du LSD ?
Elles sont caractéristiques, avec les variations individuelles dans le détail, parce qu'il n'y a pas de réaction semblable.
Pour rien vous cacher, en tant que journaliste, je suis un peu déçu, car je pensais que ce serait plus spectaculaire, plus démonstratif.
Oui, oui, ça ne m'étonne pas. Et surtout... Lorsque vous venez de lire ce qu'on a dit du LSD dans les journaux, n'est-ce pas ?
Il n'est évidemment pas question d'arriver à la conclusion que le LSD-25 n'est pas dangereux, surtout sur le plan social. Mais enfin, est-ce qu'on n'a pas quand même considérablement exagéré ce danger dans la presse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc. ?
Certainement. Moi, je crois qu'il y a peut-être une vision un peu trop simpliste du problème. On a pu se rendre compte quand même qu'il n'y avait pas de réaction spectaculaire. Si le LSD est pris en groupe, spécialement chez des jeunes adolescents qui veulent vivre leur vie, si vous voulez, alors ça peut donner des réactions absolument aberrantes, des phénomènes presque d'hystérie collective.
Oui, autrement dit, il n'y a pas de mauvaise drogue, il n'y a que le mauvais usage qu'on peut en faire.
Exactement.
Voilà, on est de retour sur le plateau pour cette émission de La Rouscaille consacrée aux drogues et au psychédélisme. Une des dimensions qu'on évoquait, c'était l'importance qu'il y a à ne pas laisser un discours sur les drogues entre les mains des spécialistes, qu'ils soient médecins, juristes, même profs de SVT ou d'éducation citoyenne, puisque je ne sais pas comment ça se passe en Italie par exemple, mais en France, c'est au collège et au lycée qu'on dresse un peu les épouvantails des drogues. Et en tout cas, on crée un imaginaire autour des drogues qui est en fait un imaginaire d'ignorance, surtout.
Oui, c'est les mêmes chez nous, en fait. Mm. C'est les mêmes en Italie.